France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le Néerlandais Sico Mansholt a été l'un des grands artisans de la construction européenne et tout particulièrement de la politique agricole commune. En 1974, dans le cadre de l'émission Dialogue, Pierre Mendès France était invité à débattre avec lui des grands problèmes pesant sur l'avenir de la société et bien au-delà, sur celui de l'humanité tout entière. Ce débat, Sico Mansholt l'ouvrait en posant l'inégalité toujours croissante entre riches et pauvres de ce monde et la destruction de l'environnement comme les deux grands fléaux qu'il était urgent d'affronter. Rappelons que dès le début des années 70, Sico Mansholt fut un tenant de la décroissance, prônant l'adoption d'un revenu minimum garanti à l'échelle européenne. Au cours de cette discussion, qui se prolongeait par des questions posées par le public aux deux participants, Pierre Mendès France se montrait fidèle à lui-même, réaliste quant à la possibilité de résoudre rapidement les problèmes gigantesques qui se posaient, mais résolument confiant en la capacité de l'homme à engager l'action qui, dans un cadre démocratique et à long terme, permettrait de les surmonter. Dialogue, la société, demain et après-demain, avec Sico Mansholt et Pierre Mendès France, diffusé la première fois le 12 mars 1974, sur France Culture.
Mesdames, Messieurs, au moment où nous fêtons à quelques semaines près le premier anniversaire de ces dialogues de France Culture et au moment aussi où vont être publiés bientôt les deux premiers volumes de ces dialogues par les presses universitaires de Grenoble, nous sommes très heureux de recevoir ce soir Monsieur Pierre Mendès France et le docteur Sico Mansholt, qui sont deux amis de longue date, mais qui ne s'étaient pas revus, rencontrés depuis au moins 18 mois, je crois. Or, depuis 18 mois, la situation politique et économique internationale a vu de nombreux et d'importants développements que vous connaissez. La crise économique que certains ont pressentie s'est aggravée, posant des problèmes graves à court terme, mais aussi à long terme pour la société de demain et pour la société d'après-demain. La société de demain et d'après-demain, c'est le thème du dialogue qui réunit ce soir Pierre Mendès France et le docteur Mansholt, le 58e dialogue de France Culture. Monsieur Mansholt.
Pour moi, les grands problèmes fondamentaux, ils sont dominés par le problème qui existe déjà longtemps. Le problème de riche et pauvre, le problème de l'inégalité dans le monde. Il y a des inégalités dans tous nos pays, mais surtout sur l'échelle mondiale, c'est une situation de misère. Si nous constatons par exemple chez nous le plus riche et le plus pauvre, 10% des régions en France, on peut dire c'est alors la relation de 2 à 1. Et si nous le prenons sur l'échelle mondiale, c'est une relation de 24 à 1. Et tout ça après une vingtaine d'années d'aide et de collaboration des riches et des pauvres dans des programmes des Nations Unies. Deuxièmement, le grand problème, la préservation de la terre pour le survie de l'homme, pour notre postérité. Préserver la terre, préserver la nature, préserver nos richesses. Et tous ces deux, c'est le problème de la distribution. la distribution entre nous et nos contemporains dans les autres parties du monde, et la distribution de nous, d'aujourd'hui, et nos petits-enfants et après. À mon avis, notre structure de notre société d'aujourd'hui, disons, le système de production capitaliste, est incapable de résoudre ces problèmes. La preuve est déjà faite, à mon avis, en ce qui concerne l'écart entre les riches et les pauvres, il s'augmente. Surtout par nos relations de nos entreprises, qui sont la base de le grand flux du capital vers les pays pauvres, disons les multinationaux, nous constatons que l'écart s'augmente encore, très fort, très fort. Après 10 années, l'écart sont beaucoup plus profond entre les riches, nous, alors les riches et les pauvres. Et deuxièmement, nous constatons alors une disruption sociale dans les pays en développement par ces entreprises. Et aussi en ce qui concerne préserver la terre, c'est alors l'autre point, je ne vois plus la possibilité, avec la production pour le profit, qui est le grand moteur de notre société, de résoudre ce problème. Alors pour moi, c'est alors la fin du capitalisme, et nous devons voir et discuter, à mon avis, quels sont les éléments pour la société nouvelle. Quel doit être le moteur dans une telle société? Quelle doit être la conscience? Et comment on peut créer la conscience? À quelle manière on peut créer la mentalité nécessaire pour, disons, tout court, pour survivre encore?
Pierre Modeste France.
À ce stade, mon cher Président, à ce stade, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que je crois que vous avez très bien posé le problème, ou les problèmes en présence desquels nous sommes. Et déjà, ça montre que les difficultés que nous allons avoir à résoudre, les questions auxquelles nous allons avoir à répondre ont vraiment un caractère nouveau pour la solution desquelles nous ne pourrons pas tellement nous reporter au passé. Et autrefois, par exemple, nous avons souvent entendu des hommes qui évoquaient le passé, la crise de 1929, est-ce que ça ne va pas être la même chose? Non, ça n'est plus la même chose. Les données ne sont pas les mêmes et les remèdes non plus. Et par conséquent, nous sommes affrontés à des questions qui sont vraiment des questions de civilisation, qui sont en rapport avec l'époque historique que nous vivons. Vous avez parlé d'inégalités, et vous avez à juste titre mentionné des inégalités intérieures entre les mieux, les plus favorisés et les plus maltraités, vous avez dit entre les riches et les pauvres. Et puis, il y a aussi des inégalités sur le plan mondial, sur le plan international. Si nous constations des inégalités qui auraient tendance à se restreindre petit à petit, si l'écart qui séparait les uns des autres avait tendance à se réduire, eh ben nous pourrions dire, après tout, c'est peut-être pas très juste dans l'immédiat, mais nous nous acheminons avec de la patience, nous nous acheminons vers des solutions qui finiront par venir. Ça mettra 10 ans, ça mettra 20 ans, ça mettra 30 ans, un jour, le problème sera résolu. Eh bien non, nous voyons que, au contraire, les inégalités non seulement subsistent, mais s'aggravent. Et si nous supposons que rien n'ait changé, si nous faisions l'hypothèse que les choses continueraient de cette manière, cela signifierait que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, l'espace qui les éloigne serait plus grand encore et qu'on aboutirait donc à des tensions internationales insupportables, en dehors même du côté moral, qui peut nous choquer. C'est pourquoi nous nous rendons compte que le régime dans lequel nous nous trouvons, l'orthodoxie dans le cadre de laquelle nous avons vécu depuis un certain nombre de générations, ne nous apporte pas les solutions dont nous avons besoin. Je dirais d'ailleurs à cet égard que la France ne donne pas le bon exemple, car puisque vous avez parlé d'inégalité entre les classes sociales, il y a aujourd'hui en France, entre les catégories les plus favorisées et les catégories les plus maltraitées, il y a aujourd'hui, quels que soient les avantages qui ont été faits de ci, de là, par des lois sociales que nous connaissons, il y a aujourd'hui, entre les uns et les autres, une distance plus grande qu'autrefois. Et cela aussi confirme que le régime dans lequel nous vivons est un régime qui n'est pas de nature à nous apporter les solutions dont nous avons besoin. Vous avez mentionné un deuxième facteur qui vous préoccupe à juste titre. Vous avez parlé de la terre, la nécessité de sauvegarder, de préserver la terre. Ici, c'est un peu le spécialiste des questions agricoles, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui s'exprime. Et ce que vous avez dit est vrai. Si on est préoccupé
de l'amélioration du sort de ceux qui, aujourd'hui, ne mangent pas à leur faim. Et à plus forte raison, si du fait de la démographie, ils sont encore plus nombreux demain. Et il est vrai qu'il faut conserver au maximum, sauvegarder au maximum l'instrument qui permet de les nourrir, c'est-à-dire la terre. Mais vous avez, lorsque vous étiez à la tête de la communauté européenne, mis l'accent sur un problème qui inclut celui-là et qui est plus large, puisque vous avez parlé à l'époque de sauvegarder non seulement la terre, mais au fond l'ensemble des richesses naturelles, l'ensemble des ressources sur lesquelles vit le monde, les matières premières, les sources énergétiques, les biens et les matières et les produits de base sur lesquels l'ensemble de l'activité économique s'est développée. Ce n'est pas seulement la terre, par conséquent, qu'il faut sauvegarder, préserver avec beaucoup de soin. C'est évidemment l'ensemble des moyens dont dispose l'humanité pour organiser un type de vie meilleur pour elle et pour les générations futures.
Docteur Mansol,
je crois que tout ce que vous dites m'amène alors à la conclusion que c'est surtout une question de comportement de l'homme et de s'organiser. Là, je vous dis que j'ai de grandes craintes pour le développement de notre société moderne en ce moment. Prenons la production. La grande partie de la production mondiale se fait par, disons, les entreprises multinationales. Personne ne peut le contrôler. Un pays peut contrôler l'entreprise sur son terrain, dans la nation, dans l'État, qu'il ne travaille pas contre, disons, l'intérêt public. Mais dès le moment que ça passe la frontière, et même l'Europe est aussi assez petite, ils travaillent beaucoup plus en dehors de l'Europe, les grandes entreprises, alors ils ne sont pas contrôlés. Alors cela veut dire, il y a déjà à ce moment nécessaire une organisation sur le plan mondial. Je ne pense pas encore à un gouvernement mondial, je ne suis pas encore si loin qu'on peut dire qu'il faut développer une sorte de fédéralisme. Néanmoins, il faut avoir à ce moment certaines organisations qui peuvent contrôler et sanctionner ou donner et éviter certains développements. Nous connaissons tous le développement, par exemple, de ce drame en Chine et le problème avec l'ITT, n'est-ce pas? C'était très clair, là, c'est fondamental, ça. Mais non seulement ça, mais ça se développe. Et on peut constater que, et ça la crainte, à ce moment que, après encore une 10 ou 15 d'années, une 300 entreprises multinationales contrôlent 70% de toute l'industrie mondiale. Alors nous serons tous les victimes des pouvoirs incontrôlables. Alors ici se pose déjà un grand problème de l'organisation sur l'échelle mondiale. Mais c'est encore plus. Parce que, au même moment, nous devons nous organiser, vous l'avez mentionné, aussi le développement de nos ressources d'une manière telle que nous arrivons à une certaine stabilisation. Au centre, naturellement, c'est le contrôle démographique. À quelle manière nous pouvons alors développer une société dans laquelle il y a une certaine stabilité de la population mondiale? Parce qu'à ce moment, on constate que ça va faire la catastrophe. Peut-être nous pouvons nourrir le 6 milliards ou 7 milliards que nous aurons en l'année 2000. En tout cas, nous l'avons déjà, parce que 45% de la population existante à ce moment est plus jeune que 15 années, alors ils seront là. Nous constatons déjà qu'il y a la crainte que dans une 5 ou 10 années, il y a la première grande crise d'alimentation. Qui se monte déjà à ce moment, il n'y a plus de réserves, et il faut s'organiser alors en manière telle, et ça doit se faire sur le plan mondial, pour éviter la crise alimentaire. Mais tout ça nécessite la volonté politique, et je ne crois pas qu'à ce moment, la volonté politique est là. Est-ce que notre système, notre démocratie, qui est basé sur... disons, un gouvernement contrôlé par le Parlement chaque 4 années, les élections. Est-ce que les gouvernements sont alors dans la mesure de développer une politique qui demande à ce moment de grands sacrifices pour sauver les problèmes, pour résoudre les problèmes après une 10 ou 15 d'années? Alors, encore une fois, j'arrive à la conclusion que, à mon avis, avec la démocratie dite parlementaire à ce moment, avec des gouvernements, ce n'est plus possible. Alors nous devons voir avec quelle société, avec quelle responsabilité de l'homme nous pouvons rencontrer ces difficultés.
Pierre Mendès France.
Je crois que vous avez eu raison de mentionner tout à l'heure la question des sociétés multinationales, parce que non seulement elles constituent vraiment un aspect très particulier du développement économique que nous vivons, mais elles illustrent ce phénomène d'inégalité croissante dont je parlais tout à l'heure. D'après les chiffres qui ont été récemment publiés, le développement du chiffre d'affaires, du commerce international, de la production des sociétés multinationales s'accroît plus vite que la production, le commerce, les échanges à l'échelon mondial. C'est-à-dire que la part qui prennent les multinationales est chaque année plus grande. Et vous avez eu raison de dire que si ça continue comme ça, on pourrait calculer qu'à un moment donné, la fraction de toute l'activité mondiale qui est prise en main, qui est prise en charge par les sociétés multinationales, deviendrait absolument écrasante. Je ne crois pas qu'on en arrivera justement jusque-là, car je crois qu'inévitablement se produiront des réactions extrêmement vives, qui auront un caractère politique, un caractère de besoin de la population de mettre un terme à cette domination qu'elle subirait. Mais dans l'état actuel, dans la période que nous venons de vivre et dans les années que nous vivons en ce moment, il est vrai que l'accroissement des multinationales dépasse de beaucoup l'accroissement de la moyenne générale et par conséquent nous sommes en présence d'un danger de plus en plus grand. Et alors ce danger est de plus en plus grand car cette force des entreprises multinationales est évidemment mise au service de leurs intérêts, de leurs objectifs, de leurs fins, de leurs profits, et peut se trouver en contradiction avec les objectifs de tel ou tel gouvernement. Lorsque dans un pays donné, une ou plusieurs multinationales manipulent, gèrent des intérêts quelquefois considérables, ces sociétés peuvent se trouver en contradiction complète avec les objectifs de la population et avec les objectifs du gouvernement. Le gouvernement peut désirer, à un moment donné, je suppose, développer l'agriculture plutôt que l'industrie. Les multinationales peuvent préférer l'industrie. Le gouvernement peut préférer avoir un but d'égalisation, de justice, je suppose. Les multinationales, au contraire, sont uniquement préoccupées d'accumuler des profits et des bénéfices. Et on pourrait multiplier les exemples. Par conséquent, le fait que les multinationales se développent a pour résultat que dans un pays, même dans un pays d'économie planifiée, même dans un pays où il existe un gouvernement qui a pris la responsabilité d'affirmer un certain nombre de volontés, il se peut que des entreprises occupent une place tellement importante qu'elles peuvent avoir pour effet de rendre la tâche que le gouvernement se serait donnée ou que le peuple lui aurait donnée irréalisable et d'orienter l'évolution économique de ce pays dans un sens différent. C'est-à-dire qu'on serait en présence d'une véritable planification faite par un certain nombre d'intérêts particuliers situés quelquefois très loin de là, à l'étranger, souvent anonyme, difficile à atteindre, en tout cas difficile à influencer. Et il y a là une contradiction évidemment très choquante. Le fait est tellement vrai qu'un certain nombre d'organisations et d'institutions s'en sont déjà saisies. Bien entendu, les syndicats ont été les premiers alertés, les premiers à sentir que dans un certain nombre de cas, le dialogue qui se déroule habituellement entre les travailleurs et les employeurs est devenu plus difficile et quelquefois même impossible lorsque le véritable maître, le véritable employeur est situé très loin, au-delà des mers, dans des conditions telles qu'on n'a aucune sorte de possibilité de discuter, de débattre avec lui ou de l'influencer. Mais des institutions internationales s'en sont occupées aussi, et vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir, puisque vous faites partie d'une commission qui a été constituée par les Nations Unies. Je trouve que c'est tout de même symbolique et intéressant et sympathique que l'Organisation des Nations Unies, qu'on brocarde souvent et qui est trop souvent, hélas, une institution faible et fragile, mais enfin c'est tout de même symbolique que l'Organisation des Nations et des Nations Unies se soit préoccupée de ce problème. Jusqu'à maintenant, elle n'a fait que constituer une commission, c'est un début. Cette commission a tout de même travaillé, elle a été loin d'être inutile puisqu'elle a révélé des faits que nous ne connaissions pas. Il y a tout de même maintenant un certain nombre d'informations qui nous échappaient
et qui commence à pénétrer dans l'opinion publique, ça n'est qu'un début, mais c'est déjà intéressant, d'informer l'opinion publique. La Commission économique européenne, et là encore vous y avez participé à l'origine, la Commission économique européenne a pris aussi à cet égard un certain nombre de positions et a fait des propositions qu'on peut discuter, qu'on peut trouver trop faibles, trop fragiles. Et pour ma part, je ne considère pas du tout que la Commission économique européenne est allée au bout du problème. Enfin, elle l'a soulevé. Et elle a posé des questions et elle a fait des propositions. Et elle a fait des propositions à l'autorité supérieure, qui est le Conseil des ministres, qui est par conséquent l'organisme où les gouvernements des pays membres de la communauté sont représentés. Et il faut dire, c'est tout de même un fait tristement significatif, que les ministres de tous les pays en cause, aucun n'est plus innocent ou plus coupable que les autres, les ministres jusqu'à maintenant ont refusé de se saisir de ce problème difficile et n'ont pas donné suite aux initiatives de la Commission. Et que la Commission ait pris les devants, c'est un fait très important. Et j'espère qu'elle ne se découragera pas en présence de l'inertie des gouvernements et du Conseil des ministres. J'espère qu'elle continuera son effort, mais je crois qu'il faut aussi que chacun de nous, à l'intérieur de son pays, et même quand on a affaire à des gouvernements dont on n'a pas à attendre un concours très actif en pareille matière, je crois que chacun de nous, à l'intérieur de son pays, doit exercer au maximum son influence sur son propre gouvernement pour l'inciter à ne pas se désintéresser plus longtemps d'un problème aussi grave et qui prend de plus en plus une tournure préoccupante.
Reportage chez Ratteau à l'heure du déjeuner.
En ce qui nous concerne à nous, Ratteau, eh bien, on est monopole et multinational depuis la prise de la CGE sur Ratteau, quoi.
Une firme multinationale a comme objectif la prise en main et le contrôle de marchés internationaux. Nous sommes dans la branche électromécanique. On s'aperçoit au niveau de ce marché-là qu'on est dépendant de deux licencieurs qui sont d'une part Westinghouse, d'autre part General Electric, donc deux licencieurs américains. Et ils ont le contrôle des marchés au niveau occidental et les retombées s'expriment au niveau des firmes européennes et au niveau des firmes françaises.
Pour eux, il s'agit d'un marché. Hein, donnant, nous on vous donne les compresseurs, mais vous nous laissez la priorité pour ce qui concerne les centrales nucléaires.
C'est ce que nous a expliqué notre camarade qui était économiste ce matin, entre la gigantesque bataille entre Westinghouse d'une part, puisque c'est les deux licencieurs américains, et la General Electric, que la CGE, elle est monnayée râteau pour pouvoir avoir une emprise européenne, c'est-à-dire d'avoir des marchés en Italie, en Allemagne, en RFA, y compris en Angleterre. Mais alors là, c'est déjà moins sûr pour l'Angleterre, parce que ça, c'est vasouillard pour l'Angleterre avec les élections. Mais enfin, par rapport à Westinghouse, elle a mené hier à taux, on a supprimé un concurrent et on a accru les bénéfices.
Est-ce que les patrons avec qui vous discutez ont tendance à se réfugier derrière des décisions qui leur échappent parfaitement ? En disant ce sont des sociétés multinationales, la décision est aux États-Unis.
Non, ils n'osent pas le faire, ça, parce que ça serait vraiment un peu gros. Hein. Disons qu'on a affaire à deux types de patrons. On a affaire, par exemple, à la direction Ratteau, qui, elle, reste obstinément sur les consignes que lui a données l'Alstom. Et d'un autre côté, on peut avoir affaire à des gens de la direction de l'Alstom. Alors, le son de cloche est un peu différent. C'est un peu des hauts fonctionnaires, en fin de compte. Des gens qui sont chez Ratteau pour appliquer ce qu'on leur dit de faire.
Disons qu'ils essayent de jouer les invisibles, bon, mais on arrive quand même à les croiser.
Nous revenons au studio 104 où Pierre Mendès-France dialogue avec le docteur Mansold sur le thème « La société, demain et après-demain ». Pierre Mendès-France.
Mais alors, ceci nous conduit au problème que vous avez évoqué rapidement à la fin, qui est le problème de savoir quel est finalement le moteur, quelle est la force que l'on peut essayer de mettre en mouvement pour faire face aux problèmes qui sont les nôtres. Il est évident que
le type de démocratie que nous avons, que nous sommes habitués, ne répond pas bien au problème. Et il ne faut pas s'en étonner. L'idée démocratique est née il y a 2 siècles et a vécu et s'est développée beaucoup au XIXe siècle, c'est-à-dire tout au long d'une période durant laquelle les problèmes qui étaient posés aux opinions publiques et aux hommes responsables étaient des problèmes politiques. Par conséquent, la démocratie a pris une forme et a adopté des instruments qui étaient conçus pour résoudre les problèmes politiques. Est-ce qu'on aurait un roi ou une république ? Est-ce quelles seraient les relations de l'Église ou de l'État ? Est-ce qu'on ferait une politique nationaliste pour reconquérir l'Alsace-Lorraine ? Ou est-ce qu'au contraire, on essaierait de faire une politique pacifiste en oubliant certaines grandes déceptions, certaines cruelles déceptions du passé, etc., etc. C'était des problèmes politiques. Les opinions qui s'affrontaient et qui étaient défendues par les principaux partis étaient des opinions politiques. Et les assemblées qui étaient constituées en conséquence avaient un caractère politique. C'est ça la démocratie du passé. Je suis loin de la mésestimer. Elle a rendu d'immenses services. Elle a permis de très grands progrès. Mais c'est vrai qu'elle ne paraît plus adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Et que les problèmes que nous avons à résoudre aujourd'hui n'ont plus le même caractère primordialement politique. Si nous feuilletons le journal officiel français, et je suppose qu'il en est de même dans votre pays, nous constatons que l'activité des gouvernements, des grandes commissions, des assemblées, finalement, ne porte plus qu'assez exceptionnellement sur des problèmes politiques. Par contre, les problèmes économiques, sociaux, commerciaux, agricoles, monétaires, fiscaux, sont des problèmes qui sont continuellement débattus. Seulement, nous voyons bien que le type de démocratie qui a été inventé autrefois et qui a fonctionné au XIXe siècle est souvent mal outillé, mal conçu pour aborder ces problèmes. Et que tout en demeurant fidèle au sentiment démocratique profond, ce sont des instruments mieux adaptés dont nous avons besoin. Le sentiment démocratique profond, au fond, on peut dire qu'il traduit cette aspiration de l'homme de jouer un rôle de plus en plus important, de plus en plus grand, de plus en plus décisif dans les grandes décisions qui commandent son destin. Dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie de la collectivité locale, et puis finalement dans la vie de la collectivité générale, dans la vie de l'État. Et c'était cela la démocratie politique. C'est la même aspiration que nous éprouvons aujourd'hui, le besoin de transposer dans des activités d'un autre type. Et c'est pourquoi nous entendons parler des relations entre employeurs et employés dans l'usine. C'est pourquoi nous entendons parler d'un plus grand développement des collectivités locales, des provinces, des régions. C'est pourquoi nous voyons que, à d'innombrables échelons, où se pose précisément, où il y a lieu précisément d'affronter les options fondamentales qui commandent la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui, il faut introduire une possibilité d'intervention de l'homme et qui, dans le passé, lui a été trop souvent refusée. Et ça ne se fera pas d'un jour à l'autre. Il y faudra sûrement beaucoup de temps. La démocratie n'est pas quelque chose qui se réalise parce qu'un jour on a pris un décret, parce qu'un jour on a fait une loi, on a fait un référendum, on a pris une décision. Et à partir d'aujourd'hui, minuit, c'est la démocratie. Et jusque-là, ça ne l'était pas. C'est pas vrai. La démocratie, c'est en réalité un combat continu, une succession ininterrompue et probablement éternelle, car je crois que jamais on ne sera au paradis. Il faudra toujours des efforts supplémentaires pour en approcher. La démocratie, c'est ce combat permanent, continuel, qui, jour après jour et dans les domaines les plus divers, doit permettre à l'homme de s'épanouir plus complètement, de faire surgir plus fortement sa volonté. Et cela nécessite évidemment beaucoup de transformations par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Des transformations, on le sent tout de suite à l'échelon institutionnel, bien sûr, dans les activités industrielles, dans les activités professionnelles de toutes sortes, dans les collectivités locales, dans la ville, dans l'agglomération, dans la région. Et il faut introduire de nouveaux mécanismes, une nouvelle organisation. Je dirais que c'est le plus facile. Car après des discussions, on peut finir par faire voter un jour les réformes que l'on croit positives. Mais ça ne suffit pas. Ce qui est le plus difficile, le plus long, c'est bien ce que vous avez touché du doigt, c'est la transformation de l'homme lui-même. De l'homme qui sent des besoins, mais qui ne sait pas encore très bien comment ces besoins peuvent être satisfaits, et qui ne se rend peut-être pas non plus exactement compte que cela dépend dans une large mesure de lui et de son propre progrès. Si nous voulons qu'il joue, que chacun d'entre les hommes joue un plus grand rôle, il faut évidemment qu'il y soit plus apte, qu'il y soit mieux préparé. Je crois que c'est difficile, je crois que ça met du temps, et je crois cependant que ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne croit. J'ai vécu un certain nombre d'expériences particulières qui m'ont véritablement fait sentir à quel point on peut progresser. J'étais frappé dans une période qui est déjà ancienne, mais enfin que certains d'entre nous ont vécu de près, disons la période de la libération, au cours des conversations que j'avais avec les représentants des syndicats, j'étais frappé par le fait qu'ils étaient très mal préparés à leur nouvelle responsabilité, à leur nouvelle importance. Et très souvent, ils n'avaient pas bien connaissance, ni de la situation économique générale du pays dans lequel ils se trouvaient, ni des conditions dans lesquelles leurs propres demandes, leurs propres revendications pouvaient se situer dans un contexte d'ensemble, ni même des conditions particulières de fonctionnement de telle ou telle entreprise ou telle industrie. Eh bien, je suis surpris, aujourd'hui, quand je parle à des militants syndicalistes, de constater tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils savent. Et je dis ça, d'ailleurs, aussi bien des militants syndicalistes ouvriers que des militants syndicalistes agricoles, par exemple. Il y a eu une promotion des cadres assez extraordinaire. Et on n'entend plus, aujourd'hui, un certain nombre d'affirmations simplistes ou élémentaires, ou disons-le franchement, souvent fausse et souvent démagogique. Il n'est pas douteux que dans les débats que nous avons avec eux, nous rencontrons des hommes qui sont beaucoup plus aptes qu'autrefois à jouer le rôle important qu'ils doivent avoir. Bien sûr, ce ne sont que des avant-gardes. Mais enfin, ce sont des avant-gardes qui se sont formés très vite, qui ont appris sur le chantier, alors que, au fond, rien n'était préparé pour les aider, pour leur permettre de se former plus rapidement. C'est au combat qu'ils se sont formés. Eh bien, si un pareil progrès a pu être réalisé dans un temps relativement bref, moi, sensiblement moins qu'une génération, je crois que c'est prometteur pour l'avenir et que ceux qui mènent le combat que vous menez ont peut-être plus de chances que beaucoup de Français ne croient d'être entendus et finalement de faire passer leur message et de réussir leur entreprise, qu'on ne le croit. Il me semble que le progrès peut venir plus vite qu'on ne le croit. Bien sûr, il y a des déceptions, bien sûr, il y a des accidents, bien sûr, il y a des erreurs. Mais on avance. Et c'est parce qu'on avance qu'en définitive, contrairement à ce que beaucoup de gens croient de moi, je crois au fond que je suis optimiste. Parce que je crois que l'expérience que j'ai vécue m'a permis de constater que la vérité a toujours le dernier mot.
Ce qu'on en dit chez Ratteau.
Les Américains sont pas fous. Ils n'ont pas leurs capitaux, par exemple, comme dans les machines, les boîtes de conserve ou les produits finis. C'est pas ça qui les intéresse. C'est d'avoir à la base les industries clés. Alors, ils ont commencé par l'électronique. Ils ont suivi par l'informatique. Et puis, alors là, ils sont en train de procéder alors à l'industrie lourde, au nucléaire et puis aux turbines. Même entre eux, il y a une bataille géante, mais c'est l'absorption des dernières possibilités, des dernières licences françaises dans un système multinational à prépondérance américaine.
Comment se fait-il que vous, P3, vous sachiez autant de choses?
Disons, c'est la vie qui tranche. C'est la vie qui tranche quand même. On essaye d'analyser avec des lectures et puis alors les journaux qu'on peut lire. Disons qu'on lit une presse quotidienne, une presse d'une certaine classe, et puis alors on en lit d'autres. Et en principe, on cherche la contradiction dans la presse adverse.
Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, quoi. tous ces renseignements au point de vue économique, c'est évidemment pas dans le Parisien qu'on le trouve. Hein. Ça, c'est sûr.
Est-ce que vous avez l'impression que les militants syndicalistes ont fait des progrès dans la compréhension du monde contemporain ?
Oh oui, 100%. Hein. Auprès de ce que j'ai vu, parce que moi j'ai connu 36, j'avais les culottes courtes, j'ai vu comment que ça s'est pratiqué enfin, dans un esprit à ce moment-là de ce qu'on représentait. Alors il y a une évolution terrible.
Oui, mais ça c'est, moi je crois que c'est une expérience qu'ils ont acquis depuis longtemps. Hein. Ils ont toujours été à l'avant des luttes, hein, à l'avant-garde des luttes. À mon niveau, moi, au niveau du gars qui travaille, bon, on a du mal à comprendre. Mais le syndicat, je pense, est structuré à des gens qui ont d'autres connaissances, qui ont fait d'autres études que nous et arrivent à comprendre ces trucs-là et qui nous expliquent. Plus simplement qu'on nous explique à la radio, à la télévision. De nous-mêmes, ça serait pas possible.
On peut affirmer, c'est l'ensemble du mouvement ouvrier du monde occidental, du monde capitaliste, qui fait des progrès à pas de géant, car des luttes qu'il mène pour la défense de ses revendications, il en tire des leçons. Toutes les luttes à l'heure actuelle en France mettent en cause, en définitive, l'orientation politique et le contenu politique de notre système économique et politique à l'heure actuelle. Et je crois que ce n'est pas les syndicalistes en tant que tels qui font des progrès. Certes, ils font des progrès, mais c'est aussi les travailleurs qui font des progrès dans la prise de conscience parce qu'ils vivent ces expériences-là. Et de ces expériences-là, ils en tirent des leçons.
La société demain et après-demain. Dr Mansholt.
Alors je crois que c'est bien utile à ce moment, cher Mendes France, de voir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant dans la politique, parce que nous devons être, à mon avis, un peu plus concrètes. Si je constate à ce moment ce qui concerne l'Europe, on n'a pas beaucoup fait. C'est l'Europe des entreprises, c'est un marché commun, qui ne s'occupe pas des hommes. Et les hommes ne trouvent pas de responsabilité pour l'Europe, pour le destin, pour le développement. Si à ce moment on voudrait faire un suffrage en ce qui concerne l'intérêt de l'Europe, je crois que ça sera très négatif. Parce qu'il n'y a pas la démocratie en Europe. Les parlements nationaux ne peuvent plus contrôler ce que font les ministres ou ce qu'ils ne font pas. Parce que même ça, c'est très important qu'ils ne font rien. Et alors, ils ne peuvent pas être, disons, chassés. Il reste là, on ne décide pas, rien n'est fait, et entre-temps, les entrepreneurs, ils développent leurs affaires, etc. Alors, ça, pour moi, c'est la crise fondamentale de l'Europe. Il n'y a pas un accord politique en ce qui concerne la démocratie en Europe. Et parlant tout franc, il y a ceux qui font des propositions d'avoir des élections directes, qui sont, à mon avis, nécessaires, qui ont des vrais pouvoirs législatifs du Parlement. Rien n'est fait, c'est bloqué, on parle un peu de l'Union européenne, mais qu'est-ce que ça veut dire l'Europe, Union européenne? Ça ne dit rien. Il faut dire que ça doit être une Europe dans laquelle l'exécutif, ceux qui décident, seront contrôlés par, disons, par la population. Alors, ça c'est à faire, à court terme, à mon avis, nous devons aboutir à cela avant 1988, disons 6 années. C'est très court pour prendre ça. À mon avis, c'est nécessaire. Deuxièmement, espérons-le que par les forces politiques. Et pour les forces politiques, ils doivent se réunir. Parce que les forces nationaux, disons les socialistes français ou les centres français ou les socialistes hollandais ou les libéraux en Allemagne, ils n'ont aucune influence aux décisions à Bruxelles. Seulement, il y a la possibilité qu'avec les pouvoirs parlementaires, s'il y a des partis européens, partis européens socialistes, partis libéraux, partis européens gaulliste, ça ne va pas, je crois. C'est pas ça, reste toujours français. Mais en tout cas, on peut s'imaginer, alors, je ne dis pas qu'il se lie avec les conservateurs, mais en tout cas, une formation des partis doit se développer à ce moment, à mon avis, c'est à la base de la solution de la crise européenne d'aujourd'hui où on se trouve dans la indécision à la conflit politique fondamental. Qu'est-ce que cela veut dire dans le travail? Quelle société nous voulons? Nous savons qu'il y a de grands problèmes devant nous, des pénuries, la question écologique, manque d'énergie qui arrive un moment. Nous devons avoir encore la décision fondamentale en ce qui concerne quelle sorte d'énergie nous voulons. Il n'y a pas ces décisions. Il y a la décision, il n'y a pas de débat. On n'a pas eu le débat en ce qui concerne est-ce que c'est souhaitable de développer l'énergie future par le surréacteur, oui ou non, avec tout le danger de radioactivité. le débat, dans mon pays, on commence déjà avec le calcaire en Allemagne, on commence ici en France avec le phénix, n'est-ce pas? On se développe parce qu'on dit, nous voulons la croissance, il faut avoir la croissance, il faut avoir l'énergie. La seule énergie qui est alors à notre disposition, c'est le surréacteur. Et alors, on crée la chose la plus sale qui existe, c'est le plutonium. Et personne ne sait, n'est-ce pas, de faire quoi avec le plutonium. Et nous savons que une quantité de plutonium, et nous allons des grandes masses, peut être la fin de tout le destin. On peut, alors, c'est la fin de la vie qui s'est libérée. Alors, on glisse dans une époque nucléaire à ce moment, pour des dizaines d'années, peut-être après nous avons la fusion de la bombe hydrogène, mais personne ne sait si c'est possible. Alors, il n'y a plus, disons, le lien entre ceux qui décident, et ce sont surtout les entrepreneurs qui décident, et le gouvernement le suivent, et la population. La population est inquiète. Tout le monde est inquiète ici dans la salle, je le sais, peut-être après le dialogue nous l'entendons, mais nous le constatons, il n'y a pas ce dialogue. À mon avis, la distance entre l'homme dans la rue, dites, et ceux qui décident, le decision-making power, on dit en anglais, je crois que nous devons créer quelques liens et quelques responsabilités spéciales qui sont nouveaux. D'abord, je crois, nous devons éviter la société dirigiste, comme en Russie, où c'est l'État qui décide et qui condamne et qui prescrit ce qu'on doit produire, en quelle quantité, à quelle manière, etc. À mon avis, c'est impossible. Mais il faut créer certaines automatismes dans la production et la consommation. Je donne un exemple pratique. Si nous disons, en 10 années, il n'y a plus la possibilité de produire avec la pollution. Alors, il faut avoir le recyclage, plus de polluer l'eau, plus polluer l'air, etc. On peut le prescrire et contrôler par l'État, je ne crois pas à ça, naturellement, il faut avoir un certain contrôle, mais il faut avoir un certain automatisme. Cela veut dire, par moyen d'un système dit de taxes et de tarifs, etc., faire attractif de produire à une manière pure, ça veut dire sans pollution. Mais ça nécessite alors une certaine politique économique. Ce n'est pas le plus difficile, père. Mais deuxièmement, je crois que nous devons créer la mentalité de tout le monde où sont les vrais problèmes pour le futur. Vous l'avez déjà indiqué, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit. Cela veut dire, c'est l'information, c'est l'éducation, les programmes des écoles. Nos enfants sont éduqués comme des producteurs. Ça commence déjà avec mes petits-enfants. Si on fait 10 poupées, n'est-ce pas, la fille, elle est un bien bon élève, et si on fait seulement un, on est mauvais élève. Alors, c'est la productivité. Si je demande à vous, qui êtes-vous, vous dites, alors, je suis alors, journaliste, et vous dites, je suis un travailleur ici et là. C'est fou. Vous devez être, je fais la musique, et j'aime l'art, etc. N'est-ce pas? Tout le monde répond comme producteur. C'est à l'école que ça commence. Créer une autre mentalité, une mentalité qu'on est alors un citoyen, avec certaines responsabilités, et à mon avis, alors, la nouvelle société doit être le résultat d'une éducation nouvelle qui amène à un autre type d'homme. Cela veut dire que, alors, on peut donner une grande responsabilité à l'homme. C'est, à mon avis, aussi la base, si on parle de la co-gestion. La co-gestion, c'est très facile de dire, mais il faut le faire en pratique. Ça demande une grande éducation, ça demande une grande, vous l'avez dit le mot, et je suis d'accord avec la formation, pour avoir la possibilité de co-gestion, non seulement dans les entreprises, mais dans les hôpitaux, dans les écoles et dans tous les domaines. Par exemple, dans mon pays, la question du milieu, de l'environnement est très importante. J'étais dans une réunion avec 1000 agriculteurs et 500 femmes des agriculteurs dans une réunion en ce qui concerne l'environnement. Ils disent « ça va mal chez nous ». N'est-ce pas? Nous produisons à une manière telle qu'il n'y a plus l'eau pure et c'est l'érosion. Nous devons utiliser plus et plus de pesticides. Où est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et j'ai dit « alors, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Ça, c'est la réponse dans une vraie démocratie. Et alors, je crois qu'on pouvait l'organiser sur place. Disons, des organisations avec des vrais pouvoirs, des pouvoirs de contrôle, avec des sanctions, comme nous l'avons par exemple pour contrôler l'écoulement de l'eau, les anciennes organisations locales sous la direction d'un président avec son conseil. Le président, c'est alors le comte de l'eau, du milieu et de l'environnement, qui alors pour un certain village prend soin de la développement vers une préservation de la nature, préservation de l'eau. Alors, c'est l'activité de l'homme et la responsabilité de l'homme et la femme, tous, ensemble avec les enfants. Ça commence déjà aussi dans l'éducation, donnée par une vraie co-gestion, la grande responsabilité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de difficulté à résoudre, mais cela nécessite alors une toute autre approche de notre démocratie. Je ne veux pas dire que c'est la fin de la démocratie parlementaire, ça je dis non, mais elle sera beaucoup moins importante, elle sera beaucoup moins à distance à créer une société dans laquelle on prend aussi des mesures normalement difficiles à diverger. Si par exemple c'est nécessaire dans le futur de moindre la croissance ou la croissance zéro, comme moi je le crois, on amène ça. Ça veut dire que la croissance, le produit brut, est utilisé pour avoir l'équilibre entre le produit matériel et le développement culturel de notre société. Cela veut dire moindre chose matérielle. C'est naturellement tout à fait clair. Ça, c'est seulement possible dans une société avec pleine égalité, où il n'y a plus les classes, où il n'y a plus les grandes richesses et la pauvreté. Non, c'est inacceptable de dire dans une telle société, alors il faut alors moindre d'automobiles ou de petites automobiles, mais peut-être dans le futur plus d'automobiles, chacun sa bicyclette ou le train, etc. C'est tous possible que nous arrivons à ça. Cela veut dire, encore une fois, seulement dans une société où il y a cette égalité sans classe. Alors aussi, encore une fois, c'est le fin du capitalisme, parce que les classes, c'est la conséquence du capitalisme. Si, par exemple, vous pouvez arriver à développer une telle société où les problèmes sont à résoudre sur la base de l'égalité, la responsabilité, la co-gestion dans tous les domaines, plus des classes, c'est beaucoup plus facile de prendre les mesures de moindre activité d'aujourd'hui, de moindre consommation de choses matérielles pour préserver des choses pour nos petits-enfants dans le futur. Parce qu'autrement, nous serons condamnés, je crois, par nos petits-enfants et de notre comportement, de notre société d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit on est en crise?
La crise, ça peut être créé artificiellement, hein. Comme actuellement, ils ont créé une crise de l'énergie. Or, elle n'était pas de l'énergie, la crise, elle est la crise de leur société, qui est pourrie. Hein? Ils ont pris ce prétexte-là. Alors, on dit, en plus, on fait venir un peu de relents racistes. On dit, c'est de la faute aux Arabes si on est en crise, si les gars, il n'y aura plus que 20 degrés dans vos appartements, tout ça, s'il faudra moins se servir de voiture, tout ça. C'est eux, ils s'est créé artificiellement, cette crise.
Crise, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire, par exemple, le refus d'investir.
Vous voyez qu'on dit, quand on dit qu'il y a une crise de surproduction?
C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est vrai dans le sens que, dans certaines branches d'industrie, il y a effectivement surproduction. Mais il y a surproduction pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une politique sociale telle que le marché intérieur n'est pas créé. Or, une des caractéristiques de la crise, c'est que tous les pays capitalistes, quels qu'ils soient, ils veulent exporter plus qu'ils importent. Or, ça semble une évidence grossière, mais il apparaît que c'est pas clair pour ceux qui nous gouvernent que c'est pas possible que tous les pays capitalistes exportent plus qu'ils importent. Au global, il faut que ça s'équilibre d'une manière ou d'une autre.
La thèse qui dit produisez moins, vous vivrez mieux. C'est-à-dire, il y a trop de voitures, on reviendrait à l'époque de la bicyclette.
De toute façon, moi, c'est qu'un avis encore personnel, hein. Quand je vois le monde comment qu'il est, il n'y a qu'une machine qui a libéré l'homme. Et encore, c'était pas l'homme, c'était la femme. C'est la machine à laver. Ça y évitait de le faire à la main. Le reste que vous preniez, fraiseuse, tour, voiture même, c'est de l'esclavage. On est tous réduits à l'état d'esclave. Il n'y a que la machine à laver qui a libéré l'homme.
Pierre Mendès France.
Je ne peux pas dire que je sois entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Par exemple, vous avez rappelé votre position en faveur de ce qu'on appelle d'une manière un peu simpliste la croissance zéro. J'avoue que je ne suis pas d'accord en ce qui me concerne. Il y a encore trop de besoins à satisfaire qui me paraissent indispensables sur le plan humain, sur le plan du progrès, sur le plan des pays les plus pauvres aussi, pour que je me résigne à la croissance zéro.
Tu parles de croissance zéro en ce qui concerne
nous. Non, mais
je sais
que vous avez employé une formule un peu télégraphique pour vous faire bien comprendre. Vous avez parlé aussi de votre hostilité ou de votre inquiétude à l'égard d'un développement industriel de caractère atomique, enfin de la force nucléaire. Je ne suis pas tout à fait de votre avis. Je crois personnellement, mais je ne suis pas un spécialiste, je le reconnais, je crois personnellement que le recours à la force nucléaire est un impératif et que notre civilisation doit s'orienter dans ce sens. Ce n'est pas que j'oublie les dangers. Vous avez par exemple évoqué le problème de la pollution et des risques enfin, de certaines activités industrielles dangereuses. Un spécialiste, un grand spécialiste français, a écrit il y a quelque temps que si nous avions consacré toutes les sommes qui, depuis 20 ans ou depuis 15 ans, ont été consacrées à la fabrication de la force atomique militaire française, si nous avions consacré ces sommes à chercher des procédés techniques d'éviter toute pollution et tout danger dans une activité nucléaire, le problème serait résolu. Je ne sais pas si ce technicien a raison, mais je pense tout de même, pour ma part, que si nous avions eu en effet à choisir entre l'un et l'autre emploi, j'aurais préféré celui auquel lui donne sa préférence. Mais si je ne suis pas d'accord sur ces points et sur quelques autres, il y a une chose qui me frappe comme vous, c'est que ces problèmes qui nous sont communs, car les besoins sont communs, les aspirations sont communes, les dangers, les périls sont communs, les impératifs moraux sont communs, c'est extraordinaire qu'il n'ait jamais été véritablement débattu, ouvertement discuté, sur un plan qui permette à tous ceux qui ont leur mot à dire, c'est-à-dire à l'ensemble des peuples, d'intervenir et finalement de prendre la décision. Que des domaines de ce genre et un certain nombre d'autres, qui sont finalement ceux qui sont les plus importants pour les pays qui sont comparables aux nôtres, en gros, si vous voulez, les pays d'Europe occidentale, que donc ces problèmes n'aient pas été discutés, débattus et finalement qu'ils n'aient pas fait l'objet de décisions par eux, c'est en effet quelque chose d'aberrant et d'insensé. Et que ce soit discuté soit par des intérêts particuliers qui sont uniquement à la recherche de leur profit, soit par des technocrates dont je ne conteste pas la bonne foi et la bonne volonté, mais enfin, tout le monde peut se tromper, même quand on est un expert compétent, que tout ceci ait été ainsi débattu, en dehors de tout contrôle de l'opinion, de toute participation des hommes et des femmes de notre temps, alors qu'il s'agit de leur sort et du sort de leurs enfants, ça a quelque chose de révoltant. On en revient véritablement à un type de civilisation qui évoque d'autres temps, d'autres époques que nous croyons révolues, où en effet des autorités supérieures, mal connues, mais dominantes, avaient le droit de vie et de mort sur l'ensemble des peuples et édictaient leur volonté qui était imposée à tout le monde sans que personne ait la possibilité d'intervenir. Alors, je crois à cet égard que l'Europe, précisément à cause de la communauté réelle des intérêts, du degré de civilisation, de l'éthique commune, d'un passé, même s'il a été un passé de division et parfois de guerre. Je crois en effet que l'Europe réunit un certain nombre d'hommes, de femmes, de nations qui sont arrivés à un degré de civilisation relativement équivalent, de telle manière qu'il est naturel que ces hommes, ces femmes et ces nations se réunissent et qu'ils aient la possibilité de régler en commun ce qui leur est commun. Car aucun de ces problèmes ne peut être résolu par chacun d'entre eux. Nous avons tout à l'heure parlé du danger atomique. Et vous avez évoqué certaines possibilités qui sont peut-être excessives, qui sont peut-être réelles. Enfin, c'est à débattre. Mais en tout cas, si ces dangers existent, ils ne s'arrêteront pas à la frontière. Et si véritablement il y a un danger de pollution, il se répandra au-delà des frontières. Et les pays voisins en subiront les conséquences, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et on peut, bien sûr, étendre cet exemple à beaucoup d'autres. Quel que soit le passé, il est évident qu'aujourd'hui, nous ressentons profondément le besoin que ces affaires soient traitées ensemble
au lieu que prévale cette psychologie du chacun pour soi, de la surenchère, du dumping et finalement du chaos. Nous venons d'en voir un exemple éclatant dans l'affaire du pétrole. S'il y a un pays qui, plus que d'autres, est à moyen terme, et même à court terme presque, dépendant de l'affaire du pétrole, menacé par l'évolution que prend le problème énergétique, c'est bien la France. S'il y a un pays qui, plus que d'autres, pourrait bénéficier d'une solidarité effective entre les diverses nations européennes, c'est bien la France. Et que ce soit la France qui y ait fait obstacle dès le début en refusant sa coopération et son soutien au pays qui était le plus directement menacé par les décisions prises par les États producteurs, je dois dire que ça a quelque chose de très choquant. On n'arrive pas à comprendre quels sont les mobiles valables, car il devrait y en avoir, qui ont conduit certains gouvernements, dont le nôtre, à prendre une position aussi égoïste, aussi étroite et finalement aussi négative. C'est dire que, comme vous, je ressens profondément le besoin de voir progresser la solution européenne, et je dis la solution, non pas que l'Europe fournit une réponse à tout et que tout sera résolu d'un jour à l'autre, je ne le pense pas, mais il me semble que la plupart des grandes difficultés que nous rencontrons sur le plan social, sur le plan agricole, sur le plan de l'énergie bien sûr, je pense que la plupart de ces grandes difficultés se présenteraient d'une manière infiniment moins lourde, d'une manière infiniment moins difficile, si nous avions le courage de surmonter certains obstacles à très court terme, certains intérêts très égoïstes et très immédiats, pour essayer de voir se dégager progressivement les méthodes selon lesquelles le progrès de demain pourrait s'opérer. Il reste qu'évidemment, cette évolution repose, vous l'avez dit, et nous ne cesserons l'un et l'autre de le répéter ce soir, repose sur les hommes eux-mêmes. Si nous nous contentons de rester chacun à notre place, de dire ce que nous pensons, de gémir doucement parce que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ce que font les hommes qui déclarent parler en notre nom, ils continueront à faire prévaloir leur politique qui nous paraît vaine et qui nous paraît même dangereuse. Si au contraire la pression populaire s'exerce, je crois que certaines idées avanceront. Il y a de nombreux cas dans le passé où même démunis de moyens institutionnels, même démunis d'instruments permettant d'agir d'une manière directe, les opinions publiques et surtout les catégories les plus avancées, les plus audacieuses, les plus hardies, les plus jeunes de l'opinion se sont fait entendre et ont finalement forcé le passage, malgré les résistances, les égoïsmes, les routines, les mauvaises habitudes. Faire comprendre que l'intérêt général passe au-dessus de l'intérêt particulier. Faire comprendre qu'il y a des injustices qui ne sont pas inévitablement inscrites dans la réalité éternelle des choses et que l'on pourra progressivement les atténuer et peut-être un jour, encore lointain, les faire disparaître. Faire comprendre que notre société, notre civilisation dans leur ensemble peuvent être gérées non plus en fonction de l'égoïsme ou du profit ou de la valeur d'échange, mais en fonction du bien-être du plus grand nombre, en fonction de l'aise de l'homme et de la femme dans une société qui ne sera plus étrangère pour eux. Faire comprendre cela, je crois que c'est véritablement faire passer le message socialiste, car je crois en définitive, je m'excuse de dire ça devant un homme qui est inscrit à un parti socialiste, ce qui n'est pas mon cas, et je crois qu'en définitive c'est ça le socialisme, c'est la promotion maximum de l'homme intervenant partout où ses intérêts ou ce qu'il considère être son bienfait dans l'avenir est impliqué. Et je crois que chacun de nous doit éveiller les hommes pour leur faire comprendre cela et pour les mettre en mouvement. Alors bien sûr, c'est un effort immense qui commence chez les enfants, qui commence à l'école, comme on l'a dit plusieurs fois ce soir, et on a raison d'y insister, c'est très important. Après tout à l'heure j'évoquais les progrès qu'a fait dans le passé la démocratie politique. C'est un fait qu'au XIXe siècle, et surtout dans la deuxième partie du XIXe siècle, l'école y a contribué considérablement. Eh bien, l'école de nos jours doit être conçue, me semble-t-il, pour accréditer, pour faire mieux comprendre cette démocratie socialiste
et qui constitue probablement l'avenir, en tout cas l'avenir tel que je le conçois. Et même si nous savons qu'il y faudra du temps, et même si nous savons que nous nous heurterons à la résistance acharnée d'un certain nombre de personnes ou de forces ou d'intérêts qui sont incrustées dans une société encore pleinement plongée, dont les racines sont encore plongées dans le passé. Alors vous me direz, tout ça, ça nous met très loin. Oui, il y faudra du temps. Ce qui est cependant important, voyez-vous, c'est que petit à petit, nous soyons capables de dégager et de faire comprendre, et surtout de faire comprendre aux jeunes, ce que sera la société le jour où elle aura pris la forme que nous souhaitons pour elle. Nous ne pouvons pas le définir d'une manière détaillée, nous ne pouvons pas vous dire voilà les décrets, voilà les arrêtés d'application qui seront publiés le jour venu. Tout ça est à débattre. C'est le produit d'une vaste maturation collective. Mais enfin, si cette maturation collective permet petit à petit de mieux faire comprendre ce que sera cet avenir, et même si nous savons que cet avenir n'est pas immédiat, alors il en découlera notre tâche au jour le jour. Parce que, en attendant, dans les décisions à prendre, jour après jour, nous aurons un point de repère, nous aurons un phare vers lequel nous diriger. Et de même que quand quand on guide un esquif sur une eau mouvante, avec la houle, avec le vent, avec les marées, de même, il faut continuellement, quels que soient les accidents, le ramener dans la direction du port vers lequel on veut se diriger, en tout cas du phare qu'on s'est donné comme but. De même, si nous sommes arrivés à mieux déterminer ce que sera la société de demain, ce que sera la vie que nous voudrions petit à petit mettre sur pied, alors notre tâche au jour le jour sera clarifiée et simplifiée. Je crois que c'est ça notre comportement. Et c'est dans ce sens, je crois, que nous devons arriver à déterminer notre tâche. Ça n'est pas facile, ça n'est pas suffisamment clair. Il y faudra beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Et nous savons beaucoup de choses ne se verront pas d'un jour à l'autre, et que même il y aura des accidents, et que même il y aura des pas en arrière. Mais que si nous nous battons pour un objectif bien déterminé, et si nous sommes sûrs que cet objectif-là représente la vérité et la justice de l'avenir, c'est lui finalement qui l'emportera. Voilà ce que je crois pour ma part, et voilà comment je crois qu'il faut que nous déterminions notre travail et notre combat de tous les jours.
Nous allons maintenant demander au public du studio 104 d'intervenir après ce dialogue qui réunissait Pierre Mendès-France et le docteur Sico Mansholt. Une première question, monsieur.
Vous parlez de changer les mentalités en vous inquiétant du facteur temps. J'ai l'impression que ça peut se faire très vite, surtout s'il s'agit des jeunes. Il y a des techniques maintenant pour le faire, il y a des outils pour le faire. Évidemment, le problème, c'est qui contrôle ces outils. Comme dans la société, qui décide, qui contrôle les outils, ce sont souvent les mêmes. Mais les moyens existent pour un changement rapide de mentalité, à condition de résoudre donc le problème du pouvoir d'abord. Vous parlez d'Europe, tout à fait d'accord là-dessus. Vous avez assez peu parlé de comment elle peut fonctionner. J'ai l'impression qu'on retombe sur les mêmes techniques, les mêmes outils. Si 600 millions de personnes doivent former ensemble une société et que chacun doit être concerné par tout ce qu'il doit décider, je me demande si le système démocratique classique auquel vous êtes conditionné est encore valable. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est apte à gouverner? C'est qu'il a reçu une éducation privilégiée, qu'il dispose d'informations privilégiées. Si, comme vous le souhaitez, ces informations et cette éducation est disponible pour tous, chacun devient compétent comme ministre. À ce moment-là, se pose un problème de gestion, de décision de chaque individu. Et là, on retombe sur la technologie, encore une fois, mais qui la contrôle.
Oui, je peux très bien comprendre ce que vous dites. Je crois qu'il n'y a pas grande divergence de vue. Naturellement, ce sont les jeunes qui ont le futur, n'est-ce pas? Encore quelques années et nous deux, nous sommes disparus. Et c'est alors à vous, n'est-ce pas, de régler les choses. C'est clair, c'est ça. Cela veut dire que c'est très important à ce moment d'introduire les jeunes dans les organisations qui sont nécessaires pour prendre les décisions politiques dans le futur. À mon avis, c'est tout à fait juste que, par exemple, mon pays, le Parti socialiste, est composé, disons, d'une la moitié des jeunes à ce moment. Je crois aussi que on doit inviter les jeunes de prendre ses responsabilités dans tous les domaines, local, provincial, départemental, dans, gouvernemental même. À mon avis, c'est bien possible parce que j'ai le sentiment que beaucoup des actions des jeunes, dites un peu désorganisées, même anarchistes quelquefois, sont le résultat qu'ils n'ont aucune autre possibilité de prendre part à une certaine responsabilité en ce qui concerne le développement futur du pays. C'est tout à fait clair tout ça. Et cela nécessite une très bonne information. On n'est pas informé. On n'est pas informé sur des choses très importantes. On n'est pas informé sur la question nucléaire, par exemple. On n'est pas informé à ce moment. C'est décidé en secret à ce moment. C'est décidé par, disons, les forces économiques. Et ce n'est même pas décidé par les hommes politiques parce qu'ils ne connaissent même pas tous les dossiers scientifiques et ils ne peuvent pas les juger. C'est alors l'information, c'est la base d'une bonne démocratie. Et je crois que ça doit commencer avec la réforme des programmes. Il faut le tourner, faire des programmes où on forme des vrais citoyens qui peuvent déjà prendre la responsabilité quand ils sont à un âge comme vous, comme, disons, 21, 22 ans.
Monsieur Mendès-France.
Je suis d'accord avec Monsieur Manchel, bien entendu. Et c'est vrai que dans la société que nous avons aujourd'hui, les décideurs sont généralement des gens d'un certain âge, ce que je ne dis pas du tout de manière péjorative, mais c'est un fait, et ceux qui subissent les conséquences sont plus que quiconque les jeunes. Si on fait une mauvaise loi sur les loyers, dans l'immédiat, ça ne gêne personne, 20 ans, 30 ans plus tard, ce sont les jeunes qui tentent de créer un foyer, qui essayent d'installer un nouveau ménage qui ne trouve pas un appartement. Si on fait une mauvaise politique étrangère, momentanément, ça ne change pas grand-chose. Si dans 10 ans, il éclate une guerre, ce sont les jeunes qui se font tuer, et ainsi de suite. Par conséquent, je crois que le devoir de l'homme politique, quel que soit son âge, le devoir de l'homme politique, c'est toujours de savoir qu'il prend ses responsabilités, non pas pour l'immédiate, mais que, en bien ou en mal, les conséquences seront ressenties pour les jeunes. Et que son devoir est d'ouvrir au maximum, comme l'a dit le président Manchel, et d'ouvrir au maximum les portes à des jeunes qui, dans la société que nous avons aujourd'hui, n'ont pas suffisamment leur mot à dire, alors que c'est eux qui sont le plus directement impliqués.
Vous voulez répondre ?
Ouvrir les portes aux jeunes, c'est très bien. Encore faut-il que les jeunes veuillent de vos portes. Dans la province hollandaise de l'Europe, c'est peut-être moins grave que dans la province française. Mais les jeunes, ils n'en veulent plus tellement de vos structures de décision, de vos structures politiques, de ces systèmes de partis. Il y a une désaffection assez importante et peut-être, à mon avis, de plus en plus importante des jeunes vis-à-vis de ce système. Il est en train de se créer à l'écart de la société officielle autre chose. On ne sait pas très bien quoi, c'est très informel, c'est très anarchique dans le sens péjoratif que lui donnerait Manchel, mais qui peut avoir un sens positif très différent. Mais c'est déjà en train de se produire. Et cette société qui survivra peut-être à la vôtre ou qui la remplacera, ça n'est pas évident qu'elle tiendra compte de vous et de vos structures.
Je n'ai jamais demandé que qui que ce soit tienne compte de moi ou des structures qui peuvent avoir ma préférence, ce qui d'ailleurs ne définit pas les structures actuelles, je le dis en passant. Quand j'ai parlé d'ouvrir les portes, je n'ai pas dit mes portes, et je n'ai pas du tout dit que je songeais à récupérer les jeunes. Je dis qu'à l'heure actuelle, dans un certain nombre de domaines, dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie des collectivités locales, en ce qui concerne la planification, en ce qui concerne un certain nombre de transformations sociales, les jeunes se trouvent dans une sorte de ségrégation. Je dis que nous devons faire sauter cette ségrégation, et quand j'ai dit ouvrir les portes, je n'ai pas voulu dire ouvrir nos portes pour obliger les jeunes à adopter nos structures, j'ai dit simplement leur ouvrir des possibilités. Et ils en feront ce qu'ils voudront. Et c'est eux et eux seuls, c'est pas vous et c'est pas moi, qui jugeront de ce qu'ils feront et de ce qu'ils décideront.
Une question au balcon.
Ma question s'adresse aux deux participants. Comment pouvons-nous tout de suite changer l'échelle des valeurs ? La première richesse des hommes est la vie, donc respecter la vie. La seconde richesse des hommes est la santé, donc créer les conditions favorables à la santé pour tous, pour les 3,5 milliards d'hommes sur Terre.
D'abord, je dois dire que la question est très pertinente et très juste, parce que nous avons perdu beaucoup de temps. Nous sommes beaucoup en retard en ce qui concerne de préserver une vraie qualité de la vie. Nous sommes en train de détruire l'environnement, de détruire l'écologie biologique. Si, par exemple, je vous dis qu'à ce moment, on constate qu'il y a 20 000 plantes sur le point à disparaître pour toujours. Voilà. Si on sait ce que cela veut dire pour le développement génétique des plantes dans le monde, même pour le ravitaillement, pour l'alimentation, ça peut être désastreux. Si après 10 années ou 15 années, les 20 000 sortes de plantes sont disparues, nous ne savons pas quelle sera la sorte. Ce sont ces questions que nous devons nous occuper. Alors, quoi faire? On a eu une grande conférence à Stockholm en ce qui concerne, disons, l'environnement, la qualité de la vie, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait en pratique? Le chef de cette organisation, Maurice Strong, se trouve quelque part en Afrique, il n'y a pas de moyens, on ne dépense rien, on pense des milliards pour la défense, 650 milliards de dollars par an pour la défense dans le monde, n'est-ce pas? Et on ne dépense pas 1 000 000% est-ce que pour la question de survie. Alors, ça c'est la réalité. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, informer d'une manière que nous le faisons à ce moment ici, que vous dites tous, et nous mettons fin à tout ça. Et nous ne voulons plus un gouvernement qui ne s'occupe pas avec ses affaires avec grande force. C'est la seule manière de le faire, faire des actions. Et là, je voudrais dire que faites aussi des actions locales, évitez qu'on développe encore des usines qui polluent encore et qu'on dise, nous ne voulons plus. Je peux vous dire, dans mon pays, où l'environnement a joue un très grand rôle, dans la ville de Rotterdam, par les moyens des actions de la population, il n'y a plus de raffinerie, plus des autres choses sont détruites parce qu'on dit, nous ne voulons plus. Je prends encore la radioactivité. Où est-ce que est l'action en France? Où est-ce que l'action aux Pays-Bas contre, disons, le Phoenix ou Calcar, n'est-ce pas? C'est vous-même qui doit le faire. Par le moyen de vos partis politiques, soit les socialistes, le centre, le gaullisme, etc., ça ne fait rien, mais il faut agir à ce moment, et c'est l'activité politique. Mais demandez d'abord une bonne information de toutes ces choses, parce qu'il se développe beaucoup de choses contre, disons, la qualité de la vie, le futur, dans le secret de nos entreprises et de nos gouvernements.
Moi, je n'ai qu'un mot à dire sur un plan un peu particulier, parce que la dame qui nous a posé une question a demandé ce qui peut être fait tout de suite. En effet, je ne crois pas que tout de suite, on réussira. Je ne crois pas que d'un instant à l'autre, on peut donner des solutions à des problèmes qui durent depuis longtemps et sur lesquels, non seulement on se heurte à des intérêts, mais sur lesquels, il faut bien dire, l'opinion publique n'est pas suffisamment active et suffisamment alertée. Ce que je crois, c'est que par conséquent, nous agirons progressivement. Mais il faut commencer le plus tôt possible et agir le plus vite possible. Si on ne peut pas agir tout de suite, au moins faut-il essayer d'agir vite. Au moins faut-il agir d'une manière pressante, de manière à contraindre tous ceux qui ont une parcelle d'autorité et de moyens à agir, alors que pour le moment, ils ne le font pas.
Question au premier rang, monsieur.
Je crois que vous êtes très convaincu par les nécessités que vous nous dépeignez d'un changement profond de l'attitude de tous vis-à-vis de la société. Mais la difficulté me paraît être, pour que nous soyons vraiment mobilisés par ce que vous faites et que vous essayez de faire, qui est un exercice de mobilisation, c'est que vous n'avez peut-être pas assez donné suite à une parole qu'a eue le président Mansholt, et qui était, il faut trouver le moteur de cette nouvelle société. Je crois que nous vivons dans une société qui a un moteur très puissant, c'est le profit, c'est celui qui anime les sociétés multinationales. Nous vivons dans une société où un autre moteur, qui est l'idéologie, a, je crois, beaucoup perdu de son pouvoir mobilisateur. Et nous sommes à la recherche, en somme, d'un moteur nouveau qui puisse donner à ceux qui veulent faire quelque chose pour que cette société change et qu'une société nouvelle se prépare, le sentiment qu'ils s'appuient non pas seulement sur un rêve, non pas seulement sur une morale, non pas seulement sur un grand espoir, mais sur quelque chose qui existe et que l'on peut mettre en œuvre en vue du changement. Je suis sûr que l'un et l'autre, vous avez une idée sur ce que pourrait être ce moteur, et je crois que ça nous aiderait beaucoup de la connaître.
Oui. Alors, quel moteur ? D'abord, il faut se demander, est-ce que dans la société moderne, dans le futur, c'est encore la production le plus haut, le plus grand, est encore vraiment notre objectif ? Ça, il faut se demander. Je me demande même, est-ce que cette grande productivité dite la croissance dans la production, la croissance économique, nous amène vraiment à une société plus heureuse ? Est-ce qu'alors nous avons encore besoin dans une société future un moteur comme le profit, où je suis bien d'accord, c'est le meilleur moteur pour avoir la croissance économique le plus grand. On pouvait même discuter en retour, si on ne veut plus la croissance, mais on veut une meilleure distribution mondiale et égalité, n'est-il pas nécessaire d'écarter cette moteur de profit pour arriver à la société que nous voulons ?
Pierre Mendès-France.
Je voudrais ajouter un mot en réponse à la question qui vient d'être posée. Au fond, dites-vous, l'idéologie a beaucoup perdu. Je ne crois pas. Je crois qu'un certain nombre d'idéologies ont fait l'objet de discours, de déclarations, de promesses qui ont été suivies de grandes déceptions. Je crois qu'on a abusé de la crédulité d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui, finalement, ont été découragés en constatant qu'on leur avait menti. Je ne crois pas qu'ils sont incapables d'éprouver des sentiments semblables à ceux du passé, désintéressés comme ceux du passé. Je ne crois pas qu'ils soient sourds aux besoins de justice, aux besoins d'égalité meilleure, aux besoins de vie plus juste. Mais je crois que ce que vous avez constaté, ce n'est pas une absence d'idéologie, c'est un scepticisme. Parce qu'on leur a probablement, je le disais tout à l'heure et je le répète, c'est un mot sévère mais il correspond à la vérité, on leur a probablement trop menti. Alors le moteur qu'il faut arriver à remettre en route, c'est l'homme. Je crois qu'il a en lui d'immenses aptitudes à l'action et à l'action désintéressée. Je crois qu'il éprouve une immense ambition dans le sens le plus noble et le plus élevé du mot. Je crois qu'il ressent des aspirations qui ont besoin d'être satisfaites. Mais il ne croit peut-être plus aussi facilement qu'autrefois parce qu'on a abusé de sa bonne foi et de sa crédulité. Et je crois que, par conséquent, aujourd'hui, c'est ce scepticisme qu'il faut surmonter. Je crois que si on est capable, dans les temps qui viennent, de montrer qu'après une période décevante, ingrate, pénible, qui a recouvert beaucoup d'injustices, je crois que si on est capable de faire sentir que le moment est revenu maintenant de repartir vers une vie qui satisfera précisément le besoin le plus profond des hommes et des femmes d'aujourd'hui, alors je crois qu'on les verra s'éveiller de nouveau au combat et à l'action dont ils ont donné des preuves dans le passé. Mais bien sûr, après les déceptions, après les difficultés, après les accidents qui sont survenus, c'est peut-être plus difficile. Et cependant, une fois que l'homme est redevenu décidé à l'action, je crois qu'il est irrésistible. C'est pourquoi le moteur, c'est lui. Et c'est pourquoi c'est lui qu'il faut remettre en marche.
Monsieur Mansholt.
Je suis pleinement d'accord avec M. Mendès-France à sa réponse. Je voudrais ajouter une chose. Si une fois on arrive à des autres objectifs dans la société, et vraiment la responsabilité de l'homme et de la femme, je crois que là on trouve un moteur qui est un tout autre moteur que le profit, n'est-ce pas? Et alors, je n'ai pas perdu alors ma confiance dans l'homme si on lui donne la responsabilité.
C'était La société demain et après-demain avec Pierre Mendès France et Sico Mansholt au micro de Roger Pilaudin. Un numéro de dialogue diffusé la première fois le 12 mars 1974 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.